C'est vraiment un très très grand privilège de pouvoir ce matin partager avec vous la parole du Seigneur. Et je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, et nous lirons le verset 1er et le verset 2. Épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 1er et verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Prions. Seigneur, merci pour le don de ta parole. Merci parce que, Seigneur, elle nous enseigne, Seigneur, elle nous corrige aussi, et que maintenant, Seigneur, ta parole soit apportée fidèlement et qu'elle puisse faire son œuvre, Seigneur, en chacun de nous. Au nom de Christ. Amen. Posons-nous ce matin cette question. Nos ministères et les églises locales sur lesquelles Dieu nous a établis pasteurs sont-ils teintés par la mondanité? Définissons tout d'abord ce qu'est la mondanité. La mondanité appartient, on peut dire, la mondanité, c'est tout ce qui appartient au siècle présent, à ce monde. Et le mondain est celui qui appartient au siècle présent, à ce monde. La Bible nous présente le monde comme étant un système humain séparé de Dieu et hostile à Dieu. Prenons quelques versets pour voir cela. Allons dans Jean chapitre 7, verset 7. Jean chapitre 7, verset 7, où nous y est dit, c'est Jésus qui parle, le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. On voit qu'il y a entre le monde et Christ, eh bien, une hostilité. Lisons Jean chapitre 14, verset 30. Jean chapitre 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. On voit qu'il n'y avait rien en commun entre Christ et le prince de ce monde, Satan. Hostilité entre le monde et Dieu. Prenons la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12, où il nous y est dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » On voit qu'il y a une opposition, là, entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Prenons Galates, chapitre 4, verset 3. Galates, chapitre 4, verset 3, où il nous y est dit, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. » On se rend compte que le monde a servi, alors que Christ, lui, a franchi. Il y a une opposition encore entre Christ et le monde. Colossiens, chapitre 2, verset 8, qui est un peu dans le même ordre d'idées. Colossiens, chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. On voit qu'il y a encore une opposition entre ce système mondain et Jésus-Christ. Et prenons comme encore un autre verset pour vraiment vous montrer dans le Nouveau Testament ce qu'est ce système mondain opposé à Jésus-Christ. Jacques chapitre 1er, verset 27. Jacques chapitre 1er, verset 27. Où il nous est dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Ici, on voit que le monde nous souille, le monde souille, alors que Dieu nous appelle à une religion pure et sans tache devant Dieu. Prenons 1 Jean chapitre 4, verset 5, et nous prendrons aussi chapitre 5, verset 19. 1 Jean chapitre 4, verset 5. Où il nous est dit, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Chapitre 6, nous, nous sommes de Dieu. Il y a une distinction encore entre Dieu ici et le monde. Chapitre 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde est sous la puissance du malin, nous, nous sommes de Dieu. Malgré cela, Eh bien, malgré cela, certaines églises locales, certains pasteurs, en ce qui concerne leur ministère, eh bien, amalgament en leur sein la mondanité. La musique rock est devenue un support pour certaines campagnes d'évangélisation, et même maintenant, elle fait son entrée dans le culte de certaines églises locales. Ma fiancée est allée cet été dans une église à Salzbourg. Elle est allée le soir dans le culte qui était donc donné en anglais, et un groupe de jeunes s'est présenté et a interprété des cantiques, si on peut appeler ça des cantiques, chrétiens, eh bien, sur des airs musicaux des Beatles, de Michael Jackson. Dans l'église, pendant un culte, certains pasteurs préfèrent utiliser la psychologie humaniste pour aider des frères et sœurs en difficulté plutôt que la parole de Dieu ou l'amalgame. Le péché ne devient plus le péché. Et d'ailleurs, j'avais même lu un livre qui est un chrétien, demandait, de prendre tout ce qui était bon de la psychologie et de rejeter le reste. Il appelait ça dépouiller l'Égyptien. C'est pas ça. La Bible est totalement suffisante pour traiter les cas des frères et des sœurs en difficulté dans les églises. Certaines assemblées locales et certains pasteurs, étourdis par le succès de certains télé-évangélistes ou assemblées champignons, vous savez, ces assemblées qui en 2 ans ont 2000 membres, là, ou 3000 membres, ça arrive, vous savez, eh bien, certaines assemblées locales et certains pasteurs ont choisi la voie du succès plutôt que la justice de Dieu. Ils ont choisi le succès plutôt que ce qui est juste devant Dieu. Et cela, malheureusement, les a détournés de la parole de la vérité et les a entraînés dans le sentier du pragmatisme. Le pragmatisme, vous savez, est une doctrine mondaine qui fait de la valeur pratique le critère de la vérité. La vérité n'étant plus la parole de Dieu, mais étant la valeur pratique. Si ça réussit, si ça marche, eh bien, c'est que cela est vrai. Et certaines églises locales, certains pasteurs dans leur ministère, eh bien, ont choisi ce sentier du pragmatisme. Certaines aussi églises attachent plus d'importance au matériel qu'au spirituel. Le bâtiment est devenu, eh bien, le centre d'intérêt dans leurs assemblées, est devenu la chose la plus importante. Il y a certaines églises, moi je ne connais pas, mais j'ai eu écho par des frères et des sœurs, il y a certaines églises, lorsque vous rentrez dedans, vous vous sentez pratiquement obligé de vous mettre en chaussettes de peur de salir la moquette. Il y a des églises qui sont d'un luxe incroyable. On attache plus d'importance au bâtiment qu'au contenu de la prédication, des études bibliques et bien du pasteur. Ce qui est devenu le plus important, c'est le bâtiment. Je me rappelle d'un missionnaire qui m'avait aussi, avec lequel j'avais discuté, un missionnaire américain, et qui m'avait dit que certaines églises aux États-Unis, ça remontait il y a 2 ans, avaient accepté, le pasteur et l'église avaient donc accepté, d'annuler le culte du dimanche soir à cause de la finale de baseball. On choisissait, les choses de ce monde, les choses terrestres, au lieu des choses spirituelles. Je discutais avec un frère il n'y a pas longtemps, avec un frère, donc je discutais il n'y a pas longtemps, et il me faisait part d'une église aux États-Unis, et c'était le pasteur qui se confiait à ce frère-là, et le pasteur lui avait confié qu'il avait accepté, bien sûr, après discussion donc avec des frères, des sœurs dans l'église, et après bien sûr discussion avec l'église, de mettre le culte du dimanche soir le matin, parce que certains frères avaient allégué qu'ils ne passaient pas assez de temps avec leur famille le dimanche après-midi. Oh, pasteur, nous aimerions avoir nos dimanches après-midi pour passer du temps ensemble avec nos enfants, notre femme, notre épouse. Mettez le culte du dimanche soir le matin. Ça avait, un aspect spirituel. Et le pasteur, se confiant à ce frère, lui a dit, ces gens qui avaient de si bonnes intentions, aujourd'hui, lorsque l'on les voit le dimanche après-midi, ils font totalement le contraire de ce pourquoi ils vous avaient demandé cela. Ils tondent leur gazon tout seuls sur leur tracteur. Ils vont à la pêche avec leurs amis. Totalement l'inverse. La mondanité pris par l'esprit de ce monde. Il n'y a pas si longtemps de cela, je parlais aussi avec un frère dans une église et je disais, frère, Tes enfants, le mercredi, vont-ils au club de la Bible ? Et ce frère me disait, ah non, Philippe, mes enfants, je les ai inscrits à un club de football local. Et au lieu d'aller étudier la Bible, d'envoyer leurs enfants étudier la parole de Dieu, le mercredi après-midi, on préfère les envoyer courir après un ballon de football. Et déjà, dans ces enfants, je note qu'il y a une rébellion qui est là. Déjà, je note que dans ces enfants, il y a une manière effrontée de parler aux parents. Et à 15 ans, ces enfants taperont sur leurs parents. Et les parents seront là, oh, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il m'arrive ? L'esprit du monde est rentré dans nos églises, dans nos ministères, et il nous faut veiller là-dessus. L'esprit du monde, donc introduit dans certains ministères et dans certaines églises locales, proclame qu'il existe, moi je dirais qu'il existerait, un juste milieu et qu'il est impossible de suivre à la lettre les exhortations de la parole sans tomber dans le fanatisme religieux. Pour eux, nous sommes des fanatiques religieux parce que nous voulons demeurer fidèles à la parole. Eux, ils pensent que cela est impossible. Le jour où l'église locale veut être reconnue du monde, eh bien, elle perd peu à peu la glorieuse liberté qu'elle possède en Christ et s'asservit au monde. Christ nous a apporté la liberté, le monde nous apporte l'esclavage, nous asservit. Et le jour où l'église locale, eh bien, veut être reconnue par le monde, eh bien, elle devient esclave du monde. Désobéissante à son maître, eh bien, elle finit par l'abandonner. Toutes les églises locales, tous les ministères qui se sont dirigés vers la mondanité, vers des principes mondains, eh bien, ont fini par disparaître. À plus ou moins long terme, mais ont fini par disparaître. La pauvreté et l'impuissance spirituelle dont souffrent actuellement certaines églises locales, eh bien, viennent essentiellement de leur flirt et de leur amalgamation avec le monde. Certains pasteurs, certaines églises, eh bien, se posent des questions parce qu'elles voient en leur sein des chrétiens non consacrés. Elles voient en leur sein des personnes, une grande partie de personnes, qui ne s'engagent pas pour le Seigneur. Et le problème de ces églises-là, pas dans toutes, mais aussi il faudrait regarder si les principes qui sont l'orientation de l'Église, les principes qui sont définis par l'Église, ne sont pas non plus des principes matérialistes et mondains. Si quelqu'un rentre dans une Église et que la première chose qu'on lui dit c'est « Regardez notre beau bâtiment, regardez l'argent que nous investissons dans notre bâtiment », il est évident que la personne, la première impression, c'est matérialiste. Il ne sera pas évident que cette personne, après, investisse dans les choses matérielles. Il y a, je veux dire, c'est évident. C'est évident que si le pasteur accepte et l'église accepte que le culte du dimanche soir soit, je veux dire, annulé à cause de la finale de baseball, il est évident que dans l'église, des chrétiens vont prendre ce prétexte-là pour venir de moins en moins au culte du dimanche soir. Et on dira, on comprend pas. Pourtant, l'explication est claire. La mondanité. Le mauvais exemple. Dès cet instant, nous sommes non seulement incapables de répondre aux réels besoins du monde, mais nous devenons inutiles et même nuisibles aux âmes qui nous entourent. Moi, je ne pourrais même pas conseiller à un chrétien d'aller dans l'église où ma fiancée est allée cet été. Où la musique rock était mise sur des paroles soi-disant chrétiennes. Mais c'est nuisible, ça, aux âmes. Ça leur fait du mal. Où le pasteur, ma fiancée me disait, c'était pratiquement une sorte de one-man show. Dans l'église, maintenant, le pasteur doit pratiquement devenir une sorte de star, là, avec son micro sans fil, et se balader de long en large dans l'assemblée, là, pour amuser la galerie. C'est devenu une sorte de one-man show. Le monde est entré dans l'église. C'est malheureux. Dieu est un Dieu saint, et il ne peut pas tolérer, au sein des églises, la mondanité. Il nous faut donc rechercher une véritable spiritualité, et ne pas le faire serait comparable à une dégradation de Dieu. Vous savez, lorsqu'on se promène à Paris, on voit de beaux bâtiments. Moi, je suis des fois émerveillé de voir la beauté de certains bâtiments. Et puis, vous passez à un endroit et puis vous voyez des tags. Vous voyez des tags sur les murs. Vous dites, oh là là, ce si beau bâtiment, qu'est-ce que c'est moche maintenant avec ces tags. Ce bâtiment qui était si beau est devenu laid à cause de ces tags. Eh bien, vous savez, accepter la mondanité dans l'église ou dans nos ministères serait faire des tags sur le Seigneur. Ce serait taguer le Seigneur. Lui ôter toute sa beauté. Eh bien, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il nous faut, dans nos ministères et dans les assemblées que nous dirigeons, combattre bibliquement la mondanité. Je dis bien bibliquement, hein, il ne faut pas maintenant commencer à brûler, je veux dire, les mondains. Hein. Il nous faut combattre bibliquement la mondanité. Alors pourquoi devons-nous, dans nos ministères et dans les assemblées que nous dirigeons, combattre bibliquement la mondanité? Eh bien, dans le texte de base de Romains 12, on peut voir trois raisons. Trois raisons pour lesquelles nous devons combattre bibliquement la mondanité. La première raison se trouve au verset premier. Verset premier nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Eh bien, la première raison, c'est que ici le Seigneur nous appelle à nous consacrer totalement à lui. Nous avons vu dans l'introduction, avec les quelques versets que nous avons lus, eh bien, que le système mondain était un système totalement opposé, hostile à Dieu. Par conséquent, une vie totalement consacrée à Dieu ne peut tolérer en elle ne serait-ce qu'un soupçon de mondanité. Aucune mondanité. Dans les chapitres qui précédaient le chapitre 12 de Romains, de l'épître aux Romains, eh bien, l'idée fondamentale était celle du sacrifice offert par Dieu pour le péché et les délits de l'humanité, et qui correspondait dans l'Ancien Testament au sacrifice pour obtenir la réconciliation. Et dans l'Épître aux Romains, ce sacrifice suprême, parfait, c'était celui de Jésus-Christ, offert pour les péchés de l'humanité. Eh bien, cette partie pratique dans l'Épître aux Romains, qui commence au chapitre 12, correspond à la seconde espèce de sacrifice. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices qui n'étaient pas d'agréable odeur à l'Éternel, sacrifices offert pour les péchés, pour la culpabilité, et il y avait une seconde espèce de sacrifice, les sacrifices qui étaient d'agréable odeur à l'Éternel. Des sacrifices d'agréable odeur à l'Éternel. Eh bien, cette partie pratique correspond à la seconde espèce de sacrifice. Des sacrifices qui étaient offerts dans la réconciliation, et non pas pour la réconciliation, mais dans la réconciliation, et qui servaient à la célébrer. Le premier sacrifice correspondait à l'Holocauste, était l'Holocauste, dans lequel la victime était entièrement brûlée, comme symbole, eh bien, de la totale consécration de la victime à Dieu. Le deuxième sacrifice était celui d'action de grâce, avec le repas dans le parvis, et correspondait, eh bien, à la vie, représentait la vie dans la communion de Dieu. Et c'est ces sacrifices-là qu'aujourd'hui Dieu nous appelle à lui offrir. Dieu nous appelle aujourd'hui à offrir l'holocauste de notre corps, une vie entièrement consacrée à sa cause. Dieu nous appelle aussi à offrir des sacrifices d'action de grâce, en ayant une vie dans la communion de Dieu. Dans ce verset, donc, verset premier, l'apôtre nous exhorte à offrir, il nous est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir ou à livrer vos vies, nos vies, comme, on peut dire, un holocauste vivant, dans lequel nous venons de voir tout devait être brûlé comme symbole d'une consécration entière et totale à Dieu, et à vivre dans la communion de Dieu, qui représentait le sacrifice d'action de grâce. À vivre dans la communion de Dieu. Et cela, à cause, eh bien, du pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes appelés à cela. À une pleine vie de communion, dans la communion de Dieu, et à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, entièrement consacré à Dieu. Il n'y a donc aucune place à l'amalgamation avec le monde dans l'Église de Dieu. Vous savez, un amalgame, c'est un mélange d'éléments différents qui ne s'accordent pas. La spiritualité et la mondanité ne s'accordent pas. On ne peut pas les faire fusionner ensemble. Et introduire dans l'Église ou dans nos ministères la mondanité serait un amalgame. C'est pas possible. Ce sont deux choses qui s'excluent totalement, deux choses opposées. Totalement opposées. Dieu réclame une consécration totale à sa cause. Donc toujours le cas de l'Holocauste. C'est un sacrifice d'ailleurs vivant qui nous est demandé. Jésus, du moins le Paul, inspiré par l'Esprit, nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui contrastait avec les sacrifices donc. La mise à mort des victimes dans l'Ancien Testament, le sacrifice mortel des victimes dans l'Ancien Testament. Ici, ce qui veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui veut dire que ici, Dieu nous demande d'être à chaque instant de notre existence, l'agent actif de la volonté divine, de la volonté de Dieu. Le mot saint ici, parce que ce verset nous appelle aussi à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, eh bien ici le mot saint fait ici contraster le nouvel emploi du corps au service de Dieu avec son emploi précédent au service du péché. Avant, notre corps était au service du péché, maintenant notre corps doit être au service de Dieu, ce qui exclut toute mondanité. Et voilà. La mondanité n'est qu'une régression, qu'un retour à l'esclavage du péché. Alors que la Bible partout nous appelle à progresser spirituellement. La mondanité n'est qu'une régression, un retour en arrière. Seule une consécration totale est agréable à Dieu. Qu'est-ce qui nous est dit au verset premier ? À offrir donc vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et seule cette consécration totale est agréable à Dieu. Notre corps plein de vie et constamment employé pour le bien offrira au regard de Dieu un spectacle qui lui sera agréable. Ce qui ne sera pas le cas d'une église mondaine, d'un ministère mondain ou d'une vie mondaine. À qui voulons-nous plaire aujourd'hui ? Voulons-nous plaire au monde et causer le dégoût à Dieu ? Si nous voulons être agréables à Dieu, eh bien, offrons-lui notre vie entièrement et fuyons la mondanité. Notons d'ailleurs, à la fin de ce verset, que seulement cela est un culte raisonnable. Il nous est dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous ouvrir à la mondanité serait tomber dans la déraison, serait devenir déraisonnable. Il nous faut, dans nos ministères et dans les assemblées que nous dirigeons, combattre bibliquement la mondanité. Pourquoi devons-nous, dans nos ministères et dans les assemblées que nous dirigeons, combattre bibliquement la mondanité ? Eh bien, la deuxième raison est que Dieu nous ordonne de ne pas nous conformer au siècle présent. Ça, c'est clair. Verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Dans le verset 1er, Paul vient de représenter le corps du fidèle comme un instrument entièrement consacré. Que lui reste-t-il à indiquer, sinon la norme d'après laquelle le fidèle devra se servir de cet agent, son corps, et réaliser dans la vie cette consécration. Cette norme, nous l'avons au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. D'ailleurs, dans le texte grec, qui n'apparaît pas dans la traduction française, nous avons une petite conjonction de coordination qui peut être rajoutée hein, dans vos Bibles et que Louis II n'a pas traduit, et qui pourrait être traduit ainsi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, livrer vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, et pour cela, là où est la conjonction, là, et pour cela, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a donc la liaison. Au verset 2, nous avons la norme, d'après laquelle le fidèle devra se servir de son corps, de cet agent, pour accomplir la volonté de Dieu. Dans l'emploi, d'ailleurs, de son corps consacré, le fidèle a tout d'abord un modèle à renier. Le modèle à rejeter est celui que lui offre le présent siècle. Alors, qu'est-ce que le présent siècle ? Eh bien, le présent siècle, pour les rabbins, désigne tout l'état de choses qui précède l'époque du Messie. Tout ce qui est avant l'époque du Messie, l'état de choses, c'est cela le présent siècle. Dans le Nouveau Testament, et d'ailleurs dans la Bible entièrement, c'est beaucoup plus affiné. Hein. Le présent siècle caractérise le train de vie des gens qui n'ont pas encore subi le renouvellement opéré par Christ dans la vie même. Toutes les personnes qui ne sont pas passées par cette nouvelle naissance, par cette régénération, eh bien c'est cela, c'est ce qui caractérise le train de vie des gens qui n'ont pas encore subi donc ce renouvellement opéré par Christ. Cette manière de vivre n'est pas le modèle que le chrétien doit se proposer dans l'usage qu'il fait de son corps. Ce n'est pas ce modèle-là que le chrétien doit suivre. Il faut maintenant cesser de vivre selon le style de vie du présent siècle mauvais. Dans Galates chapitre 1, verset 4, l'apôtre Paul, Galates chapitre 1, verset 4, l'apôtre Paul nous dit, verset 3, que la grâce et la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Le présent siècle ici est appelé mauvais. Comment pouvons-nous introduire dans nos assemblées, dans nos ministères, des choses qui sont mauvaises, qui viennent du monde? D'ailleurs, Jésus-Christ est venu nous en arracher. Comment pouvons-nous y retourner? Ça, c'est ce que ce verset est en train de nous dire. Comment pouvons-nous y retourner alors que Jésus-Christ est venu nous en arracher? C'est vraiment très malheureux. Le temps, d'ailleurs, pour le verbe ici, le temps présent et le mode impératif ici, le demande. Il faut maintenant cesser de vivre selon ce style de vie du présent siècle mauvais. Le chrétien doit chercher un type supérieur à réaliser, mais par le moyen d'une puissance agissant du dedans, et non par un procédé de simple copie. D'ailleurs, le verbe ici traduit par « se conformer » implique, principalement en grec, une ressemblance extérieure. Il nous faut donc laisser Dieu opérer en nous cette transformation profonde, parce que ce ne sera pas en regardant autour de nous, à droite ou à gauche, que nous apprendrons l'usage que nous avons à faire de notre corps. Moi, j'étais surpris, je suis allé dans une église il y a 15 jours ou 3 semaines de cela, et pas uniquement cette église-là, hein, mais beaucoup d'églises, hein, dans beaucoup d'églises où je vais, j'étais surpris de voir des jeunes chrétiens, eh bien, adopter un style dans leur vestimentaire, un style dans leur coiffure, totalement, eh bien, calqué sur le monde. Vous rentrez dans les églises, vous voyez des jeunes, moi je vois mon frère est un converti. Il suit un petit peu la mode, là, qu'on appelle la mode grunge, qui vient de Californie, les cheveux longs, le pull qu'on attache autour qui pend, là, les pantalons jeans troués, certaines chemises multicolores, et vous rentrez dans des églises, et vous voyez des enfants de chrétiens, eux-mêmes des enfants convertis chrétiens, ayant adopté ce style, cette mode vestimentaire. Et ce sont des enfants, bon, qui servent peut-être dans l'église, qui servent dans l'église. Mais je me pose une question. Est-ce que ces jeunes ne sont pas déjà influencés par l'esprit de ce monde? Et est-ce que nous nous en rendons vraiment compte? Est-ce qu'ils sont vraiment enseignés aussi pour qu'ils puissent changer? Et ça, c'est vraiment triste. C'est d'une grande tristesse, vous savez. C'est d'une grande tristesse. Le monde est rentré dans l'église. On se conforme au siècle présent. Et ça commence par les jeunes. Et les jeunes, ce sera la future génération. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans les églises? Qu'est-ce que ça va donner dans les églises? Eh bien, il nous faut, dans nos ministères et dans les assemblées que nous dirigeons, combattre bibliquement la mondanité. Pourquoi devons-nous, dans nos ministères et dans les assemblées que nous dirigeons, combattre bibliquement la mondanité? Eh bien, la troisième raison, c'est que Dieu nous ordonne d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nul chrétien, soucieux de ressembler au monde, ne doit espérer changer celui-ci par son témoignage. Ça, c'est clair, vous savez. Moi, je connais un frère, c'est un frère en Christ que j'aime beaucoup. Ce frère, étant déjà converti chrétien, est devenu tenancier d'un bar de nuit, où il vend de l'alcool, où il vend des cigarettes, où la musique rock est mise à fond. Et ce frère vit en concubinage avec une femme. Et ce frère vient tous les dimanches matin à l'église avec sa concubine, et il espère, par son témoignage rendu, eh bien, convertir sa concubine à Jésus-Christ, en disant « Repens-toi de tes péchés », alors que lui-même vit dans le péché jusqu'au cou. Ce frère, sur les cartes, là où il vend de l'alcool, des cocktails, alcoolisés, avec lesquels les gens s'enivrent, eh bien, a mis des versets bibliques dedans. Il a mis le fameux verset des Proverbes, et où il est dit, le verset des Proverbes par rapport à l'alcool, où il est dit « Celui qui boit de l'alcool n'est point sage ». Mais les gens, lorsqu'ils lisent ça, franchement, il doit y avoir un petit sourire. Ils ne savent pas si ce gars-là est vraiment sérieux ou s'il se moque de la Bible ou s'il plaisante. Sa mondanité dégrade Dieu complètement. Et je ne sais pas s'il s'en rend compte, on lui a dit. Son église lui a dit. Et il doit s'en rendre compte, mais il pense que, en vivant comme les gens du monde, et en rendant un témoignage comme cela, il va réussir à amener les gens à Jésus-Christ. Mais il se trompe complètement, ce frère. Complètement. Mais il est vrai aussi d'une chose, c'est que seul l'Esprit Saint peut rendre le croyant capable de résister à l'influence de plus en plus enveloppante du monde moderne, vous savez. Parce que le monde maintenant n'est plus dehors. Au siècle dernier, le monde était dehors, mais le monde est maintenant chez nous. Vous allumez la télévision, vous êtes bombardé de méthodologie mondaine, d'idées mondaines, de principes mondains qui vous attirent. Le monde est chez nous maintenant. Et si nous ne savons pas maîtriser la télévision, nous pouvons être complètement, totalement influencés par les idées du monde. Mais aussi, il y a une condition à cela. C'est que toutefois soit reconnue la nécessité de la sainteté. Un chrétien qui ne reconnaît pas la nécessité de la sainteté dans sa vie, eh bien, le Saint-Esprit ne peut même pas agir. Saint-Esprit n'agira pas dans cette personne. Dans ce verset, le verset que nous venons de voir, « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », Dieu nous ordonne, et c'est un mode impératif, d'être transformés, ou littéralement d'être métamorphosés. Ce verbe véhicule le sens d'une transformation profonde, fondamentale de l'être. Une transformation qui fait d'une chenille rampante un papillon resplendissant. Et je crois que beaucoup de chrétiens et d'églises locales, malheureusement, en sont restés au stade de la chenille rampante. Malheureusement. Une métamorphose est un changement de forme, de nature ou de structure si considérable, ça c'est la définition, hein, si considérable que l'être ou la chose qui en est l'objet n'est plus reconnaissable. Une chenille transformée en papillon. Est-ce que les gens du monde reconnaissent en nous ou dans nos assemblées locales quelqu'un des leurs? Il doit y avoir autant de différence entre nous et le monde qu'il y a de différence entre une chenille et un papillon. Si cette différence n'existe pas, eh bien une chose qui est sûre, c'est que nous ne pourrons jamais rendre un témoignage au monde, le témoignage de l'œuvre de Dieu dans notre vie, de la transformation que Christ a accomplie et continue à accomplir dans notre vie, et qui a commencé au salut. La clé dans la métamorphose du fidèle est le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence est cette faculté par laquelle l'âme perçoit et discerne le bien et le vrai. Mais c'est vrai que dans notre état naturel, avec notre péché, eh bien cette faculté est totalement altérée, vous savez. Voilà pourquoi Dieu nous ordonne de renouveler notre intelligence, et cela comme condition de la métamorphose qu'il réclame. Seul un chrétien renouvelé dans son intelligence pourra, eh bien, se métamorphoser. Seul un chrétien, comme cela, pourra se métamorphoser. À mesure que l'intelligence d'une personne continue d'être renouvelée par le prince, par la puissance spirituelle de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, de la prière et de la communion fraternelle, eh bien, son style de vie continue de se transformer. C'est en puisant dans la parole de Dieu que nous allons pouvoir vraiment trouver, eh bien, ce renouvellement de l'intelligence. C'est en totalement nous livrant, eh bien, à la puissance du Saint-Esprit que le Saint-Esprit pourra, eh bien, faire son œuvre d'illumination en nous. Nous montrons le bien et le vrai. C'est uniquement cela. C'est en passant du temps dans la prière aussi que le Seigneur continuera à agir dans notre vie, dans notre cœur. C'est aussi en aimant la communion fraternelle, en vivant entre nous, vous savez. C'est en vivant entre nous. Vous savez, si un papillon se joint à un groupe de chenilles, le pauvre, il va être très malheureux. Hein. Parce que les chenilles, elles ne butinent pas les fleurs. Les chenilles, elles sont sur des arbres, là, et puis elles mangent, elles croquent avec leurs, je sais pas si elles ont des dents, les feuilles, là. Le papillon ne pourra pas se nourrir de feuilles. Il y aura une incompatibilité. D'ailleurs, les chenilles ne comprendront même pas. Elles diront, tu fais pas partie de nous, toi. T'as deux ailes, nous, on a 15 pattes. Toi, t'es beau, nous, on est ailés. Les chenilles ne comprendront même pas comment un papillon pourra venir, comment s'acoquiner avec. Ils ne comprendront même pas. Et le papillon lui-même, à la fin, il se dira, mais c'est vrai, enfin, qu'est-ce que je fais avec des trucs aussi laids que ça? Il comprendra, les chenilles, hein. Il comprendra même pas, hein. Il comprendra même pas, vous savez. Cette personne va recouvrir, par le renouvellement de l'intelligence, eh bien, la capacité de discerner le vrai modèle à réaliser, le type le plus excellent et le plus sublime, c'est-à-dire la volonté de Dieu. La bonne, agréable et parfaite. C'est ce que la fin du verset nous dit. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est excellent, là, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est donc parfait. Ce qui est parfait. Que recherchons-nous aujourd'hui dans nos ministères ou dans nos églises locales? La perfection ou la médiocrité? C'est aussi la question que nous devons nous poser. Nous venons de voir ce matin trois raisons pour lesquelles il fallait dans nos ministères et dans les assemblées que nous dirigeons combattre bibliquement la mondanité. La première raison, c'était que Dieu nous appelait, et nous appelle toujours, à nous consacrer totalement à lui. C'est vrai que dans le verset premier, c'était un aoriste offrir son corps. Peut-être avez-vous déjà fait ce pas de la consécration totale avec Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, l'avez-vous délaissé, êtes-vous moins consacré. Eh bien, le Seigneur vous encourage aujourd'hui à revenir à cette consécration. Vous aviez pris cet engagement initial que vous aviez pris de vous engager totalement avec le Seigneur. Deuxièmement, c'est parce que Dieu nous ordonne de ne pas nous conformer au siècle présent, au présent siècle mauvais auquel Christ est venu nous arracher. La troisième raison, c'est que Dieu nous ordonne d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Seule une intelligence renouvelée par la parole de Dieu, par l'Esprit Saint, par la prière, par la communion fraternelle, nous métamorphoser. Cette métamorphose est liée à ce renouvellement de l'intelligence. Au modèle de conduite fausse, offerte à chaque temps par le genre de vie mondain, et que l'on imite souvent machinalement, vous savez, hein. Il ne faut pas oublier que nous venons du monde. Il ne faut pas oublier que l'Église est composée de personnes sauvées qui sont tirées du monde, et qui viennent donc avec toutes leurs conceptions mondaines, toutes leurs idéaux, toutes leurs idées mondaines, leurs buts mondains, souvent imités machinalement. Eh bien, cette conduite fausse offerte en chaque temps par le genre de vie mondain et que l'on imite machinalement est opposée à un type parfait. Et c'est ce type parfait que nous devons adopter. Celui de la volonté de Dieu que discerne l'intelligence renouvelée du fidèle et qu'il s'efforce de réaliser au moyen de son corps consacré à Dieu. Et cela à tous les instants et dans toutes les relations de sa vie. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est toujours riche d'enseignements et je suis convaincu, Seigneur, que ce n'est pas encore, Seigneur, tout traité, Seigneur, ces deux versets étant tellement riches et profonds. Seigneur, je te prie que nous puissions vraiment maintenant vivre comme tes enfants, Seigneur. Que nous puissions fuir tout ce qu'il y a de mondain, tout ce qui s'oppose à la spiritualité, Seigneur. Je te prie pour que nous puissions maintenant totalement nous consacrer à toi, ce qui exclut, Seigneur, tout flirte avec le monde, avec la mondanité, Seigneur. Je te prie que nous puissions vraiment t'obéir, Seigneur, lorsque tu nous demandes de, Seigneur, de ne pas imiter, Seigneur, le siècle présent, Seigneur. De ne pas nous modeler sur le siècle présent, Seigneur. Et cela, Seigneur, n'est pas toujours facile parce que notre intelligence est encore obscurcie. Seigneur, nous voulons aussi t'obéir quand tu nous demandes de nous métamorphoser, Seigneur, par ce renouvellement de l'intelligence. Et c'est vrai que nous avons besoin de passer encore plus de temps dans la méditation de ta parole, Seigneur. Plus de temps encore, Seigneur, à prier. Nous avons besoin aussi d'offrir notre corps, Seigneur, à nous offrir totalement à toi, Seigneur, à la puissance de ton esprit, Seigneur. Et aussi, Seigneur, nous avons besoin d'aimer la communion fraternelle, Seigneur. Je te prie, Père, que tu continues en nous cette métamorphose, que tu puisses, Seigneur, nous y aider. Et Seigneur, nous voulons ce matin, maintenant, rechercher ce qui est parfait. Nous voulons rechercher ta volonté, Seigneur. C'est elle qui est parfaite, Seigneur. Et nous voulons nous y conformer, Seigneur. Vraiment, que ta parole nous parle encore et que ce matin, Seigneur, toutes ces prédications qui vont suivre, Seigneur, soient à ta gloire et nous parle encore. Au nom de Christ. Amen.